Salut Rémi.
On est en ligne ?
On est en ligne et en plus on t'entend, c'est génial.
Magnifique, oh là là, salut Corben. Salut les spectateurs, bonjour à toutes les personnes qui nous regardent ici là en direct sur Twitch, qui sont dans le chat ou qui arrivent bientôt dans le chat. Salut le Tsar en particulier. Et puis bisous à toutes ces personnes là qui nous regardent soit en replay sur YouTube avec le son et l'image ou alors que le son. En podcast, quel que soit l'endroit depuis lequel vous nous regardez, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, des étoiles, des likes, des cœurs, que sais-je encore, des partages, tout ça.
Des bisous.
Pour qu'on soit de plus en plus, oui, des bisous par exemple, pour qu'on soit de plus en plus nombreux, nombreuses sur les émissions. Voilà, comme ça, c'est cool. Bref, on est quoi ? On est le 16 octobre 2023. Il est midi 35 et vous êtes bien chez les webosaures, les dinosaures du web. Donc moi, c'est Rémi Rémouk, je suis accompagné de Corben. Bonjour Corben.
Ça va?
Ben, ça va et toi?
Bah ouais, ça va, un peu fatigué du week-end, mais oui. Parce que beaucoup bricolé, mais sinon ça va, ça roule, tout
un
va bien.
Un début de semaine intense, quoi.
Ouais, c'est ça. Puis le lundi matin, c'est jamais tout repos. Depuis ce matin, je réponds à des emails dans tous les sens, donc à chaque fois que tu réponds à un mail, les gens te répondent à ta réponse, donc après tu réponds à leur réponse, et c'est une espèce de boucle infinie comme ça. Donc,
ça t'arrête pas.
Ben c'est ouais, l'angoisse. C'est... Mais voilà.
Ah oui. Bah c'est les lundis, ils sont comme ça.
C'est ça.
On espère que de votre côté, vous, ça va bien. Bonjour dans le chat, hein. Salut Balek. Et oui, effectivement, ceux qui ont l'image, ils ont quelques petites surprises au niveau de notre de la capillosité.
Hein, ah non, moi ça va, écoute.
Ça va, ça se passe bien.
Ça bouge pas.
Hein. Ça bouge pas.
Enfin, peut-être que je te tente la teinture blonde aussi. On sait, peut-être que ça m'irait.
Des trucs, hein. Ah ouais. Pourtant que t'as des cheveux, profites-en.
Ouais, c'est ça.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, on va faire le petit culturosaure du mois, c'est-à-dire qu'on va revenir un petit peu sur ce qu'on a découvert récemment en ciné, films, séries, jeux, mangas, jeux de société comme jeux de vidéo par exemple, aspirateur, livre, musique.
Aspirateur, voilà. Ouais, si tu veux.
Enfin, non, bref, toutes nos petites découvertes hein. Culturelles de ce mois-ci. N'hésitez pas, comme d'habitude, hein, dans le chat, à participer, à rebondir sur ce qu'on raconte ou donner votre avis ou aussi partager des trucs que nous pourrons nous aussi découvrir par la suite, tout simplement. Let's go, de toute façon on a tout dit, on a tout fait. Ah non, juste un petit truc pour par rapport à la mission précédente qui était donc, on a fait un jeu web ensemble, des énigmes, etc. N'hésitez pas à nous faire un retour sur ce que ça donnait en podcast, si c'était cool pour vous, etc. Qu'on sache si on continue pareil ou si on trouve des ajustements à faire.
Je pense que c'était la cata en podcast à écouter, mais par contre en live ça avait l'air de bien plaire, donc peut-être ouais, qu'on les publiera peut-être pas en podcast.
Peut-être
finalement.
Pas en podcast, voilà. Si
enfin,
jamais
vous nous dites
gens,
quoi.
Voilà. Nous disent qu'en podcast c'était pas ouf, bon, on les publiera plus en podcast ces émissions-là, ouais, mais voilà, des petits ajustements à faire j'imagine. C'est vrai que c'est spécial, c'est le premier truc qu'on s'était dit. Hein, c'est...
Ouais. Mais moi, je me suis bien amusé, j'ai bien aimé.
Ouais, on refera, je pense.
De toute façon, hein, on n'a pas fini, il faut qu'on continue.
Bah non, c'est clair. Bref, culturosaure, let's go, si tu veux commencer ou
Je veux bien commencer parce que du coup, je vais rebondir sur une de tes recos d'il y a 3 semaines, parce que tu en avais parlé, et du coup, j'ai regardé, et ça m'a vachement plu, donc je voulais qu'on revienne dessus. C'est One Piece, la série.
La série live,
donc je l'avais pas vu quand on a parlé il y a 3 semaines, donc maintenant je peux donner mon avis également. Alors moi One Piece, j'ai jamais lu les mangas, tout ça, c'est pas mon truc, enfin je connaissais pas spécialement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent ça comme le meilleur manga qui existe. Ça se tire la bourre régulièrement avec Naruto d'ailleurs à ce
oui,
sujet.
Ce genre de truc.
Et donc j'ai lancé ça comme ça pour voir, pour tester, parce que Rémi l'a dit que c'était cool, donc moi je suis les avis de Rémi les yeux fermés. Et je te jure Rémi, mais j'ai adoré, mais c'est même plus que ça, j'ai sûr adoré quoi. J'ai vraiment kiffé.
Ça fait plaisir. Tu l'as regardé tout seul ou avec
Non, tout seul, j'ai regardé tout seul. Et j'ai vraiment adoré, mais tout quoi. C'est-à-dire graphiquement, visuellement, tout l'univers est extraordinaire. Enfin, je connais pas l'univers de One Piece, donc voilà, c'est déjà je découvre tout en même temps en fait. C'est-à-dire que je découvre la série et en même temps l'univers de One Piece. Et l'univers de One Piece en tant que tel, je pourrais pas te dire s'il est bien représenté par rapport à ce qu'il y a dans les mangas, mais en tout cas moi ce que j'ai trouvé dans la série, c'est que voilà, tous les côtés un peu je veux dire surnaturel, un peu loufoque, oui. Des héros ou même des univers, des îles, etc. Voilà, enfin tout se met en place un petit peu parce que c'est la première saison. Mais ouais, ça me donne envie, tu vois, d'en savoir plus, de découvrir tout l'univers de ce qu'il y a autour des héros, etc. Et puis après, bah les héros en tant que tels, enfin voilà, les héros sont super attachants et en fait ça démarre progressivement, c'est-à-dire que au démarrage, Luffy, donc le héros, il est un peu tout seul, et puis après il se constitue un équipage, une équipe, et donc c'est marrant de voir un peu comment il est choisi. Et c'est super feel good, quoi. C'est vraiment, ils sont très joyeux, très positifs, et en même temps ils se bagarrent méchamment avec des gros méchants quand même. Ouais. Donc voilà, j'ai trouvé ça super rafraîchissant. Ça fait du bien au moral, tu vois. C'est pas un truc qui est plombant, c'est vachement léger. En même temps, c'est pas chiant, c'est pas neuneux. Non, c'est bien. Franchement, c'est vraiment cool. Donc je vous le recommande. Si vous avez pas encore vu One Piece la série, bah allez-y. Par contre, j'étais frustré, il y a que 8 épisodes sur cette saison 1.
C'est court, hein.
Je savais pas qu'il y en avait que 8, donc j'étais à 8e épisode, je me dis bon, c'est bon, il y en a à peu près 10, tu vois. Et non, c'était la fin, j'avais les boules. Donc du coup, ouais. J'ai attrapé mon fils et je lui ai dit t'as des One Piece, toi? Il m'a dit ouais, j'ai les 5 premiers tomes, j'ai dit vas-y, donne-les-moi. Donc je vais commencer à attaquer le manga.
Ça va, là tu, il y aura pas que 5 tomes en tout, hein.
Ouais, je sais, il y en a une centaine, ça devrait aller.
Bah là je rebondis un petit peu, hein, aussi, hein. J'ai lu le tome 105 de One Piece. C'est 104 ou 105 d'ailleurs, j'ai un doute.
Il y en a 106 normalement, je crois, au total.
Non, en France, pardon. En tout cas, après il y a les traductions, mais ouais. Moi je lis pas les scans ni rien, je lis les versions officielles. Là.
D'accord.
Et ouais, je crois que c'est 105 et ça doit être 106 au Japon.
Okay.
Et bah bref, c'est toujours aussi bien, hein, c'est toujours super cool. Le truc avec la série aussi, c'est quand tu vois qu'il y a que 8 épisodes là, et quand tu sais tout ce que ça raconte et tout ce qu'il y a encore à mettre en place, etc., en tant que fan de One Piece, t'es un peu frustré aussi, tu dis, ah, c'est comme si on te donnait juste, c'est même pas on t'a servi l'apéro, si on t'a donné une chips en fait.
Ah ouais, c'est ça. T'as tellement raison. C'est trop ça, quoi.
Mais c'est cool, hein. Moi, j'en ai déjà parlé l'autre fois, donc je vais pas revenir dessus plus que ça.
Ouais.
Mais je comprends le côté frustrant pour tout le monde. Surtout qu'on sait qu'ils ont mis des plombes à le faire. Parce qu'il fallait réinventer un langage visuel pour que ça corresponde à la série et en même temps à ce qui se fait en termes de...
Mais c'est beau en plus, enfin, je veux dire, c'est graphiquement, c'est vraiment bien fait, bien pensé, c'est vraiment super chouette. Ouais.
On voit que des fois c'est un petit peu cheap, mais ils s'en sortent bien vu ce qu'il y a à faire, quoi.
Ouais.
Des effets d'élasticité ou quoi, que c'est quand même un peu compliqué en vrai. Mais ça marche bien, quoi. Ouais.
J'ai envie d'explorer, d'aller prendre un billet d'avion, tu sais, et d'aller...
Ah bah oui, voilà. Mais c'est l'aventure, hein, c'est ça qui est bien dans One Piece.
C'est ça.
On voit le voyage. Et donc, ouais, bah, si tu te mets au manga, bah, tu verras, il y a plein d'aventures, t'es pas prêt d'en voir le bout, quoi.
D'accord. Ça marche.
Je vais enchaîner avec une série que t'as peut-être commencé à voir. Alors, elle est pas terminée, c'est vraiment le tout début. Et c'est un spin-off de The Boys, dont on a déjà parlé ici, j'imagine.
Ouais.
C'est sûr, hein, The Boys.
Ouais, The Boys, on en a parlé, parce que, ouais,
c'est top. Super-héros, un peu plus trash que d'habitude. Un peu plus cynique que d'habitude, où les super-héros sont plutôt méchants, en fait, hein, globalement. Il y a une grosse corporation qui les contrôle un peu, etc. etc.
Série qui est d'ailleurs portée essentiellement par le super méchant, quoi, le protecteur.
Ouais, entre autres. Bah,
parce
oui,
que
oui.
Après, les autres sont sympas, mais c'est lui vraiment qui fait la force du truc, quoi.
C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, donc une série plutôt cool. Mais moi, par exemple, toi, j'avais beaucoup aimé la saison 1. La saison 2, moins, parce que je sais pas, j'ai l'impression que les personnages, ils tournaient en rond, ils savaient déjà plus quoi faire d'eux. Et saison 3, ça relevait un petit peu le niveau, mais surtout avec plein d'idées débiles, donc c'était bien rigolo.
Ouais.
Mais tu sentais aussi qu'ils avaient plus grand-chose à raconter, bizarrement. Et donc, la nouvelle série qui vient de sortir, de chez Amazon toujours, s'appelle Gen V, donc G-E-N-V, comme Génération V, parce que c'est la drogue, hein, qu'ils ont administrée à des enfants pour qu'ils deviennent ou pas super-héros, quoi. Et donc, Gen V, c'est une nouvelle série qui se passe dans le même univers. Donc, des fois, ils parlent de tel ou tel personnage qu'on a vu dans la série The Boys. Des fois on les voit même, sauf que ça suit d'autres gens, tout simplement. C'est plus des étudiants d'ailleurs, Donc c'est un petit peu plus jeune, mais c'est pas une série pour ados pour autant.
Ouais, c'est pas la version teenage de.
Non, c'est le même ton, c'est à peu près pareil, sauf que bah, c'est d'autres, d'autres personnages, quoi, tout simplement.
Donc c'est bien trash.
Et ouais, pareil, il y a des trucs bien trash, évidemment. Okay. Ça commence assez fort dès le premier épisode, évidemment, hein, pour en mettre plein la vue et donner envie de regarder. Mais ouais, on sent qu'il y a un petit peu moins de budget, peut-être, parce que les effets spéciaux sont un peu plus rares, j'ai l'impression. Mais c'est quand même bien chouette. Et justement, je trouve que ça renouvelle bien l'univers. Ça apporte un petit vent de fraîcheur, parce que bah, là, on a des nouveaux personnages qu'on apprend à connaître, qui ont des problèmes et des trucs à faire, etc. Donc ça rebooste un petit peu l'intérêt, je trouve, d'une série qui s'était un peu trop vite essoufflée, à mon sens. Même si je pense regarder la saison 4, hein, quand elle sortira. Et donc là, on est à quoi, à 4 ou 5 épisodes, je sais plus. Et je sais pas combien on aura d'ailleurs, s'il y en aura 8 ou 10, mais bon, c'est de même ordre d'idée que la série de base. Attends, je vais regarder là, est-ce que je peux le voir? Ils en ont prévu 8 pour la saison 1, ouais. Donc 8 épisodes saison 1, et puis voilà, bah, je vous conseille, si vous avez aimé The Boys, et que vous ayez été déçu ou pas par la suite de la série, c'est tout aussi bien, voire un petit peu mieux que là où c'en était, quoi.
Ouais.
Toi, t'avais bien aimé, toi, The Boys, hein?
Ouais, j'avais bien aimé, ouais. Après, c'est vraiment très trash, hein.
Ils font un peu exprès, à chaque fois ils rajoutent des dildos, des machins, des trucs.
Ouais, non, ça encore, mais.
À la moindre occasion.
Ouais, c'est ça, il y a vraiment beaucoup de boyaux, de sang, de petits bouts de viande qui volent dans tous les sens, et des fois c'est limite écœurant, quoi. Mais bon. Voilà, ça,
bah, t'en
c'est
auras,
comme...
t'en auras aussi.
Ok, faut pas manger en même temps, quoi.
Non, pas trop. Faut avoir le cœur bien accroché.
Ouais, c'est ça. Bon, moi, je vais vous parler d'un film que j'ai vu, parce qu'en fait, j'étais sur TikTok, puis il y a un mec qui recommandait des films un peu sur la folie, tout ça, et comme j'aime bien un peu ces trucs-là, j'étais chargé de ce film qui date quand même de 2019, donc c'est pas tout nouveau, mais il est sur Netflix, il me semble, et ça s'appelle en français La Fracture, et en anglais, c'est Fractured, R-E-D à la fin. Okay. Fractured.
Oui.
Fractured. Et donc ça raconte l'histoire d'un gars qui est en voiture avec sa femme et sa fille et qui a un accident, je vais pas aller trop vite, mais qui manque d'avoir un accident plutôt. Et donc il s'arrête, il fait une petite pause, etc. parce que c'était un peu chaud. Et en faisant la petite pause, sa fille se blesse. Donc il l'emmène aux urgences avec sa femme. Et aux urgences, ils sont séparés, tu vois, la mère part avec la petite pour se faire ausculter, opérer, etc. Et lui se retrouve à attendre dans la salle d'attente, et puis il attend. Bon, là, tout ce que je vous dis, c'est dans la bande-annonce, hein, vous allez rien... C'est pas vraiment du spoil. Sauf qu'à un moment, il trouve un peu le temps long, hein, évidemment, aux urgences, même aux États-Unis, ouais. Le temps est long, quoi. Et donc, il va pour se renseigner un petit peu, et là... personne n'a entendu parler ni de sa femme ni de sa fille, et ils se sont évaporés, ouais. Quoi. Mmh. Voilà, et donc lui, bah, c'est un vrai cauchemar, quoi, parce que il se retrouve dans un truc où il devient complètement un peu cinglé, parce qu'il essaye de les retrouver, personne le croit, tu vois, mais monsieur, les vidéos de surveillance, ça donne rien, enfin tu vois, il est vraiment perdu, quoi. Et personne l'aide, et donc il pète un plomb, quoi. Donc voilà, c'est un film sur la folie, sur c'est assez anxiogène, hein. C'est assez angoissant, ouais. Même si quelque part il se passe pas vraiment grand chose visuellement, mais bon, il se passe quand même des trucs, hein. C'est pas non plus un truc introspectif, mais c'est un bon petit cauchemar, quoi. Voilà, ça fait un peu flipper, ouais. Voilà.
Bah, je l'ai vu, en fait, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure que tu racontais. Et ouais, c'est un bon, je sais pas comment dire, un thriller un peu où,
ouais, c'est ça.
Où tu sais jamais trop ce qui se passe, et c'est pour ça que c'est anxiogène, c'est que tu te demandes.
Ouais, puis
qu'est-ce que ça,
tu te mets à sa place, quoi.
Est un peu.
Ouais, c'est ça. Et puis en fait, moi, une de mes grosses angoisses dans la vie, c'est justement de te retrouver confronté à la machine, tu vois, au système, c'est-à-dire, tu vois, là, t'as le système hospitalier, le système policier, ouais. Qui t'écrase, tu n'es rien, personne t'écoute, même si, enfin, ouais. Tu vois, et t'es embarqué dans un truc et tu maîtrises rien, quoi. Et c'est une vraie angoisse, et c'est, du coup, c'est bien retranscrit, là, dans ce film, quoi.
Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est un bon, bon truc à voir quand même, si vous aimez bien le genre de... Genre un peu policier, on va dire, au final, si on réfléchit au côté...
Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, voilà, c'est avec Sam Worthington qui jouait dans Avatar, monsieur... il me semble.
Et ouais.
C'est ça.
Jake
c'est...
Sully dans Avatar.
C'est ça, c'est Monsieur Avatar.
Et ouais. Et donc, bah, pareil, c'est sur Netflix, hein.
Yes.
La fracture sur Netflix. Tout à fait. Ouais, bah pareil, j'ai bien aimé. Si vous aimez le genre, en tout cas, c'est cool.
Mm.
Ben moi, je vais enchaîner avec un truc qui n'a rien à voir, avec un jeu de société.
Ouais. Enfin,
que j'en ai deux là à vous présenter aujourd'hui. Le premier s'appelle Zombie Kitten. Je ne sais pas s'il va passer à l'écran vu que la boîte est verte et que j'ai un fond vert derrière moi. Ah ouais, je disparais derrière, trop bien.
Célèbre jeu que nous avons fait d'ailleurs gagner au Geek Ferries, souviens-toi.
Exactement, au Geek Ferries, on avait fait le quiz, on a fait gagner ce jeu. Et du coup, je l'ai pris aussi, on me l'a offert, pardon. Mais je suis content de l'avoir et je voulais le tester, j'ai eu l'occasion ce week-end de jouer à plusieurs et tout. Et c'est vraiment chouette. Donc je sais pas si vous connaissez Exploding Kittens, qui est un jeu de cartes qui a été créé par... celui qui tient un blog dessiné qui s'appelle The Oatmeal, donc c'est un truc anglais ou américain en tout cas, enfin ça parle en anglais quoi, avec des chats etc quoi, c'est entre autres, mais c'est super cool. Et donc il a participé à ce jeu de société. C'est un jeu de cartes où le principe en gros c'est la roulette russe. Chacun son tour on pioche, et si on tombe sur une explosion, Exploding Kittens, donc c'est les chats qui explosent, eh bien on meurt. Donc par exemple, un exemple de carte Exploding Kittens, donc voilà, elle est noire. Toutes les cartes Exploding, elles sont vraiment visibles parce qu'elles ont un fond noir alors que les autres ont un fond clair. Et donc là, bah, c'est un chat qui fait... Il y a de l'eau qui tombe dans sa... Enfin, de l'eau radioactive ou je sais pas quoi qui tombe dans sa gamelle et du coup, il devient gigantesque et il écrase la ville. Donc voilà, à chaque fois, c'est des trucs un petit peu rigolos comme ça. T'as le chat, évidemment, qui marche sur la prise et qui débranche un truc et ça fait une explosion nucléaire ou je sais pas quoi. Bref, c'est juste pour dire que t'as perdu. Chacun son tour, on pioche une carte. Et si on, il faut être le dernier vivant, quoi. Mais bien sûr, avant de piocher, t'as le droit d'utiliser des cartes. Les cartes que t'as dans ta main. Qui vont te permettre, par exemple, de regarder quelles sont les prochaines cartes. De remélanger le jeu. Si jamais tu dis, oh tiens, là, en fait, je vais piocher une bombe, je remélange. De faire jouer les autres joueurs à ta place. Ce genre de choses, en fait. Donc ça te permet d'embêter les autres, d'éviter de crever, etc. Et donc la version Zombie Kitten, ce qu'elle rajoute, c'est que les joueurs deviennent zombies, les chats deviennent zombies, et donc on peut revenir en jeu après être mort, puisque dans le jeu de base, comme la roulette russe, hein, si tu tires et qu'il y avait une balle, bah c'est fini.
Ouais.
Et ben là, on peut revenir en tant que zombie. Donc ça rajoute, et puis voilà, donc, voilà, ça rajoute une petite mécanique assez sympa, puisque les gens qui sont éliminés finalement, mais ils continuent à regarder et puis ils vont peut-être revenir. Et puis les cartes de base, les autres cartes, les cartes actions, elles sont un petit peu différentes que celles du jeu d'origine. Donc ça apporte un petit peu de variété. C'est un peu différent. Donc même si vous connaissez le jeu d'origine, ça renouvelle bien le truc, c'est assez sympa. Et puis bien sûr tous les dessins de toutes les cartes ont été refaits. Enfin ils sont différents quoi. Donc ça aussi c'est cool. Et enfin ce qu'on peut faire c'est mélanger ce jeu avec le jeu de base, et on se retrouve avec un jeu avec beaucoup plus de cartes, et on peut du coup y jouer jusqu'à 9 plutôt que jusqu'à 5 joueurs. Le jeu de base c'est de 2 à 5 joueurs, et donc là si on mélange deux jeux, on peut jouer jusqu'à 9. Donc
il faut des amis, c'est sûr.
C'est un jeu de société, hein, dans le jeu de société, c'est ça. Société, donc forcément.
Bon, c'est pas pour moi quoi.
Mais en famille ça se joue bien hein, tu vois. C'est
non mais
rigolo.
Tu sais pas comment c'est dans ma famille quand on joue de société, on se fout sur la gueule, on est à deux doigts de divorcer, d'abandonner les enfants, enfin c'est un truc c'est dangereux,
bon état d'esprit.
D'accord.
C'est fun, c'est un jeu plutôt apéro parce que c'est des parties quand même assez courtes etc, c'est pas un jeu d'ambiance machin.
Ouais.
Mais je le conseille tout comme le Exploding Kittens de base et voilà Zombie Kittens, soit pour renouveler soit à la place, hein, peu importe. Dans tous les cas, ça marche bien. C'est un chouette jeu et qui est pas très cher de mémoire. Hein. C'est 15 ou 20 balles. 15 balles, je pense. Et voilà. Très sympa. Zombie Kittens, vous trouvez sur toutes les... N'importe où, de toute façon. Hein.
Oui.
Il n'y a pas de souci. Hein.
À la SPA, tout ça.
Facile.
Ça marche. Bon, je vais te parler d'un film que j'ai vu deux fois. parce que j'ai trouvé bien et je me suis dit ça serait cool de.
Parce que t'avais oublié que tu l'avais vu.
Non,
ou attends,
c'est parce que je me suis dit je vais le revoir avec les enfants, ça va leur plaire, tu vois. Je l'ai vu une fois, puis après je me suis dit, allez, je vais le remettre avec les enfants, et puis sur le grand écran, ce que j'avais regardé sur le laptop. Et c'est un film qui est sorti il y a pas très longtemps, qui s'appelle Gran Turismo.
Ah ouais, ok.
Donc c'est Gran Turismo, vous connaissez, hein, c'est le jeu vidéo, en tout cas la simulation automobile, c'est un jeu de voiture quoi en gros. J'ai jamais joué, à part, je crois qu'il y a des bornes d'arcade, j'ai dû voir ça à un moment, mais moi j'ai jamais joué à Gran Turismo. Et donc ça raconte en fait l'histoire, alors je savais pas jusqu'à la fin que c'était une histoire vraie, donc je l'ai regardé un peu comme ça, mais visiblement c'est une histoire vraie, donc... En gros, le pitch, c'est le suivant, c'est des joueurs, enfin en tout cas, le héros est un joueur de Gran Turismo vraiment passionné, tu vois, qui n'a pas d'autre passion que de conduire sa voiture sur son jeu vidéo avec son petit volant, sa simulation et tout, il est bien équipé, quoi. Il joue sur PlayStation, etc. Et puis, un jour, Toyota organise, alors je sais pas pourquoi ils ont choisi Toyota, mais bon, je pense qu'ils doivent avoir un petit partenariat, ou ils ont peut-être sponsorisé, j'en sais rien, parce qu'il y a toutes les voitures en fait, hein, dans le Gran Turismo, il n'y a pas que des Toyota. Ouais. Mais Toyota organise, Nissan organise, c'est déjà plus logique, des courses en GT. Organise un concours en fait pour détecter les talents sur Gran Turismo, et donc ils font un concours dans le jeu. Et ils sélectionnent les meilleurs autour du monde du jeu pour en faire des vrais pilotes. Parce que le constat, c'est le suivant, c'est de se dire... Enfin, le constat, le postulat de départ, c'est le suivant, c'est de dire... Voilà, ces gens-là jouent toute la journée sur un simulateur en version virtuelle, quoi, en gros. Et on va en faire des vrais pilotes, quoi. On pense que notre jeu, il est suffisamment bon. Enfin, le jeu est suffisamment bon pour que ça soit facile de transformer un gamer... ils appellent ça des sim racers, donc des pilotes de simulation, quoi, en vrai pilote. Et donc, on voit en fait toute cette phase là où en gros ils sont vachement méprisés parce que eux ce sont des gamers et à côté de ça
parce que là ils se retrouvent à piloter directement ou contre
ouais c'est
des...
ça bah ils font une espèce de formation d'académie tout ça, ils se retrouvent à piloter pour de vrai et voilà, mais tout le monde les méprise quoi, tu vois, les vrais pilotes personne n'y croit, ils sont pas pris au sérieux, etc. Et donc petit à petit ils montent en puissance, etc. Donc le film, je vais pas rentrer dans trop de détails pour vous garder un peu la surprise, mais le film est vraiment sympa parce que, bon, moi j'aime bien quand il y a des courses de bagnoles ou des courses poursuites, des choses comme ça, donc j'aime bien ça dans les films. Et là, là il y a ça, quoi. Il y a ce côté un peu jeu vidéo qui est assez cool parce que du coup, même les vraies courses qui sont filmées le sont parfois avec des points de vue très jeux vidéo, tu sais, à l'arrière de la voiture, des choses comme ça, quoi. Donc il y a des effets vraiment cool dans le film. Et puis, en plus, on voit l'ascension du mec, quoi. Donc, à un moment, il y a des coups durs, tu vois, c'est un peu le cycle du héros classique, hein. C'est-à-dire que le gars, voilà, il est dans sa chambre, rempli de chaussettes qui puent, et il joue à Gran Turismo, et son père, il lui chie à la gueule toute la journée parce qu'il fait rien de sa vie. Et puis, il monte, et puis il a des coups durs et machin, et après, il en sort transformé, et grandi. Voilà. Donc, c'est un film qui a pas vraiment beaucoup de surprises au niveau du scénario, mais qui est un bon film quand même. Enfin, moi j'ai bien aimé. On voit aussi beaucoup de... Enfin, on voit vraiment ce qu'a mis... Alors, je sais pas qui édite le jeu Gran Turismo, je suis pas un expert.
C'est Sony, hein, je crois.
Ouais, ça va être Sony.
C'est un jeu PlayStation à chaque fois, donc...
Possiblement. Enfin, c'est Polyphony Digital, c'est le studio. Ouais. Polyphony, je vais y arriver, Digital. On voit un peu tout le sérieux qu'ils mettent, en fait, dans leur jeu, même au travers du film, pour en faire vraiment une simulation et pas juste un jeu, quoi. Donc va de toutes les sensations de conduite, même les moteurs, ils reproduisent tout, même les sons, en fait ils enregistrent des vraies bagnoles pour avoir les vrais sons à l'identique dans le jeu, enfin voilà. Donc on a aussi cet aspect là un peu geek qui est sympa, et puis tout l'aspect brut de course de bagnole avec tout ce que ça implique, quoi. Donc voilà, si vous aimez les films de course de voiture, vous allez aimer. Et si vous aimez les trucs un peu geek, un peu jeux vidéo, vous allez aimer aussi. Donc super film, voilà.
Recommande. Trop bien. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce film, je l'ai pas encore vu, hein, mais c'est qu'il est réalisé par Neil Blomkamp, qui est un réalisateur sud-africain qui avait fait notamment District 9, je sais pas si tu te souviens.
Oui, oui, oui.
Qui était excellent, quoi. Donc, je sais pas si on reconnaît un peu sa patte ou.
Non,
si
bah, moi, District 9, je vois très bien le film, hein, mais non, j'ai pas reconnu la patte du tout de District 9 dans le film. Par contre, il y a vraiment. Enfin, tu vois vraiment que les effets spéciaux sont vraiment très cool, quoi. Ça s'intègre bien, quoi. C'est bien pensé, ça s'intègre bien à l'histoire, à la course, etc. Et comme le gars, comment tu l'as appelé, Neil, c'est
ça, Blomkamp.
Neil Blomkamp, sa patte, c'est quand même les effets spéciaux, hein, principalement.
Les effets spéciaux très réalistes surtout.
C'est ça, ouais. Et là, pour le coup, il arrive bien à mixer justement ces effets un peu jeux vidéo avec des vraies courses de bagnoles et des voilà. Donc on a le meilleur des deux mondes, quoi. Et ça, c'est assez impressionnant parce que souvent c'est un peu déceptif, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas. C'est pas top, quoi, dans ce genre de truc. Quand les mecs essayent de faire jeu vidéo dans le monde réel, c'est pas ouf, quoi.
On dit c'est peut-être une pub pour le jeu, finalement.
En vrai, ouais, ça peut être une bonne pub pour le jeu, parce que moi, ça m'a donné envie, hein, clairement. Je me suis dit, ouais, cool, j'ai envie d'y jouer, quoi. Mais après, bon, voilà, ça reste un jeu de voiture, mais c'est un jeu de voiture qui se prend au sérieux, quoi. C'est une simulation. Donc, l'idée, c'est de dire que les gens qui sont bons dans ce jeu-là seraient en tout cas potentiellement capables de piloter des vraies voitures, mais en même temps de reconnaître, je sais pas, une panne mécanique juste à la sensation de conduite ou au bruit, quoi, des choses comme ça, ou même être vachement familiarisé avec les circuits, parce qu'il y a plein de circuits dans Gran Turismo. Et du coup, les sim racers dans le film connaissent les circuits par cœur parce qu'eux, ils les ont fait des milliers de fois, quoi. Là où des pilotes classiques les ont fait des dizaines de fois parce qu'eux s'entraînent en vrai, quoi. Tu vois, ils font des vraies courses, des choses comme ça. Et ils n'ont pas forcément accès à tous les circuits, quoi. Donc, voilà.
Et pourquoi les vrais pilotes, ils pilotent pas aussi sur Gran Turismo?
Peut-être qu'ils le font, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans le jeu, ils en parlent pas de ça. Enfin, dans le film, ils en parlent pas de ça. C'est plutôt du mépris, quoi.
Vu que c'est une histoire vraie, est-ce que tu sais si ça s'est passé il y a longtemps? C'était il y a 10, 20 ans ou...
Non, ça devait pas être si vieux que ça, mais moi j'en avais jamais entendu parler. Attends, je vais te dire. Parce qu'en fait, à la fin en fait, du film, j'étais surpris, c'est comme ça que je l'ai découvert. Il montre des vraies images de Ian Mardenborough, qui est donc le vrai gars, etc. Donc c'est marrant parce que même le gars a joué sa propre doublure conduite dans le film.
Okay.
Voilà, et donc sa compétition 4 courses avec Nissan, attends, je regarde, il prend connaissance, alors ça c'était quand il avait 19 ans, alors il n'y a pas la date, mais en gros c'était en 2011, quoi, visiblement. En 2011, ils ont organisé ça, Nissan. Et donc il a vraiment fait la GT Academy, et ensuite il a fait sa carrière en pilote automobile, quoi.
Ok, trop bien.
Donc c'était 2011, il a démarré.
Ah, dans le chat on nous dit à peu près, non c'est ça, Autrement.
Voilà, c'est ça. Donc c'est une histoire vraie. Voilà, je savais pas. Je l'ai su qu'à la fin du film, comme un couillon, mais voilà. Bon après c'est marrant parce que les Français, alors je sais pas s'ils ont repris les vrais noms des gens qui ont participé et tout, mais t'as un Français dans le lot dans les participants. Et il a vraiment un nom, tu sais, genre Louis Michel. Enfin, tu sais les noms des Américains qu'ils donnent aux Français, tu sais. Et puis t'as l'espagnol, il s'appelle Louis. Tu vois, enfin ils ont tous. C'est des noms clichés. Alors, je sais pas si c'est les vrais noms des mecs, mais en tout cas, voilà. J'ai trouvé ça rigolo aussi. C'est Louis Leblanc, enfin, tu vois le truc.
Ouais. Excellent. Je vais vous parler du deuxième jeu de société là que j'ai pu tester ce week-end, qui s'appelle Coyote. Regardez la boîte comme elle est belle,
relief et tout.
Coyote, pardon. Qui est dessus. Donc le principe est assez... Bon, comme d'habitude, c'est plutôt simple, mais à expliquer, c'est peut-être pas simple, je sais pas. En gros, on va tous avoir une carte, on va prendre une carte, les valeurs vont de 1 à 10, plus il y a une carte 15, une carte 20, et une carte moins 5 et moins 10, je crois, un truc comme ça. Et je vous parle pas de quelques cartes spéciales, parce que bon, c'est des détails de trucs. Mais voilà, on a des cartes qui existent en une seule valeur, donc il y a une seule carte 20, une seule carte 3, une seule carte 15, une seule carte 1. D'ailleurs, pareil, les cartes sont super belles, elles sont brillantes à l'arrière et tout. Le jeu est vraiment joli, les cartes sont épaisses et tout, c'est plutôt chouette. Et donc on va piocher une carte, chacun, on va la mettre devant soi sur le petit stand qui est fourni comme ça, qui fait que nous on ne verra pas la carte que nous avons devant nous.
D'accord.
On voit que le dos de la carte, mais on va voir les cartes de tous les autres joueurs.
Ouais.
Et le but c'est de faire un pari et d'estimer la somme en fait de toutes les cartes de tous les joueurs, sachant qu'on ne connaît pas notre carte à nous et qu'il y a aussi une carte cachée au milieu.
D'accord, ok.
Donc tu vas faire des paris, tu vas faire un pari, je sais pas moi, je vois que toi t'as le 10, j'en vois un autre qui a le 5, bon, et moi j'ai peut-être un truc négatif, mais j'ai plus de chances d'avoir un truc positif, donc je commence et je dis bah allez, je pars sur 15. Mais toi, t'as pas la même vision du jeu, puisque toi, tu sais ce que j'ai et tout, mais ouais, tu sais pas que t'as un 10, par exemple.
Mm.
Donc, soit tu continues à surenchérir, parce que tu penses qu'il y a plus, soit tu dis que non, ça peut pas être ça, il y a forcément moins, et donc là, on compte le total de toutes les cartes, et celui qui s'est trompé perd une vie.
D'accord.
Et on perd à chaque fois, on a 3 vies chacun, et le but, c'est d'être le dernier en vie, quoi. Et donc, comme il y a des cartes cachées, qu'il y a des cartes un peu spéciales, etc., bah, ça marche vraiment bien, on prend vraiment des risques et on essaye d'imaginer la valeur totale. Et bah, c'est un peu indescriptible, en fait, la sensation du jeu, parce que bah, dit comme ça, ça a l'air un peu bidon, hein, tu comptes et tu donnes le résultat. Mais non, parce que bah, y a des inconnus. On a aussi une manière de regarder, on a le droit de regarder la carte du milieu en utilisant donc des yeux là qu'on a, on en a en nombre limité.
Ouais.
Tu peux utiliser un œil et regarder la carte du milieu, donc t'as une info de plus que les autres, etc. Donc voilà, c'est tout simple, mais vraiment, vraiment sympa. Et ça s'appelle donc Coyote.
Ok.
Pareil, bien, ça se joue de 3 à 6 joueurs, c'est assez familial et tout, et ben là, il n'y a pas trop d'engueulade, hein, puisque si tu te trompes, c'est ta faute, on va dire.
Même.
Pas encore aux autres de pouvoir viser ou quoi. Je dis toujours pas ça pour te convaincre de.
Ouais,
de
ouais, ouais, non, mais même comme ça, je suis sûr que je peux m'embrouiller.
Donc voilà, Coyote, qui est vraiment joli, simple, efficace,
mm-hmm.
et rigolo, quoi. Si vous aimez bien aussi le côté un peu bluff, parce que des fois, tu sais que non, parce que t'as déjà vu la carte du milieu, par exemple, mais tu t'es obligé de monter pour embêter les autres ou pour pas te faire avoir, etc., quoi. Donc voilà. Je conseille.
Ok, cool, cool. Et il coûte combien? Tu dis jamais les prix de ce
bah,
truc,
pareil, mais... entre 10 et 15 balles.
Ouais, d'accord. Bon, ça va, c'est pas excessif, quoi.
C'est un petit jeu avec. Il est très bien fait, hein, les cartes sont belles et tout, mais après, il n'y a pas grand chose, quoi.
Ouais.
C'est une trentaine de cartes et puis les petits stands. Et les règles, bien sûr.
Ça marche. Bon, moi, je vais te parler d'une série que tu n'as sûrement pas vue. Netflix, qui s'appelle Tapie. C'est la série sur Bernard Tapie.
Ah, j'en ai entendu parler, mais...
Je l'ai pas fini encore, elle est en cours, mais j'aime bien, donc je vais vous en parler. Alors, c'est une série, déjà, qui est pas approuvée par Bernard Tapie. Bon, déjà, il est mort, mais en même temps, il savait que ça allait être créé de son vivant, et il s'opposait au truc. Sa femme ou son ex-femme, enfin sa veuve, hein, je pense même, donc sa femme s'est opposée aussi, s'oppose encore même maintenant à la série. Voilà, elle l'a critiqué, elle dit que c'était pas vraiment comme ça et que Bernard Tapie n'était pas bien représenté dedans. Et c'est une série qui est développée par Tristan Seguela, qui est le fils de Jacques Seguela. Voilà, okay. Ça c'est pour un peu le contexte. Donc en fait la série, bah ça raconte le début de l'histoire de Bernard Tapie. Enfin voilà, il est déjà adulte, hein, mais ça se passe sur une période pour cette saison 1 de 1960 à 1990. Donc il y a pas beaucoup d'épisodes, hein, il y en a 7, et ça montre un peu le début de Bernard Tapie dans les affaires. Donc donc c'est assez drôle parce qu'en fait on revoit déjà toute cette époque des années 60, 70, 80.
Ah oui, bah oui.
Tu vois, donc les vieilles voitures, les vieilles tapisseries dans les maisons, l'électroménager à l'ancienne. Enfin voilà, en tout cas au niveau décor. C'est top parce que tu revois un peu cette vieille France graphiquement de notre enfance et même d'avant, quoi. Donc c'est assez plaisant, tu vois. Autant Stranger Things t'avais un peu à l'ancienne les années 80,
oui, oui.
Mais plus à l'américaine. Bon bah là t'as un peu ça mais plus à la française, bien kitsch, à la Giscard et tout, quoi. Donc Bon, bref, voilà. C'est, y a ça. Alors après, Bernard Tapie, il est incarné par Laurent Lafitte. Je sais pas si tu vois qui est okay. Laurent Lafitte. Il jouait dans un film. Alors moi, c'est le seul film, je crois, que j'ai vu avec lui. C'est Les Petits Mouchoirs, il me semble que ça s'appelle. Ouais. Les Petits Mouchoirs, donc un film de Guillaume Canet, où il joue vraiment le con. Enfin, dans le film, il est con, hein, clairement. Oui, il a un peu. C'est le bon pote, mais un peu lourdeau, un peu débile. Bien sympa, mais un peu con, quoi. Et du coup, moi, comme c'est le seul film que j'ai vu de lui, j'ai cette image, en fait, du mec qui est un peu con, quoi. Oui. Et dans Bernard Tapie, enfin, dans Tapie, la série, il y a cet aspect-là aussi. Enfin, cet aspect. Il n'est pas con, mais c'est... Enfin, après, c'est vrai, c'est le personnage de Tapie qui est retranscrit comme ça. C'est un mec qui veut faire fortune coûte que coûte, quoi, qui veut faire du business coûte que coûte, qui en a rien à foutre des lois, des règles, des voilà, il s'en fout, quoi. Et surtout, il reste toujours, je vais pas dire positif, parce que c'est pas comme Luffy, tu vois, c'est pas un mec qui est positif spécialement, mais c'est un mec qui se voile la face, en fait, tu vois. Il se voile la face quand il fait de la merde, il se voile la face et il continue, ou tu vois, il s'adapte, il se plante, il tente des business, il se plante, etc. Donc voilà, donc après j'imagine.
C'est ça.
De quoi ?
On voit le côté persévérant peut-être.
C'est ça, il y a ce côté persévérant, il y a ce côté il pue un peu la loose, hein, au début, parce que voilà, il est avec sa femme et sa fille, il est à moitié séparé, parce que bah il est tout le temps dans des plans galères, il se met tout le temps avec des gens des fois un peu recommandables, un peu galères, etc. Donc c'est vraiment le gars, bah un peu comme on le voyait à la télé, si tu veux, qui a pas sa langue dans sa poche, qui est un peu roublard, qui fait du business et qui a pas peur d'aller se frotter à des gens qui sont pas très clean non plus, tu vois. Voilà, et en même temps, qui est très, on va dire, je vais pas dire socialiste, mais tu vois, qui est très pour la défense de la veuve et de l'orphelin, tu vois, la défense du pauvre, etc. Et en même temps, lui, il entube les gens, enfin, tu vois, il essaye de... Il y a cette espèce de dualité qui est retranscrite aussi un peu dans le film, qui est marrant, quoi. Okay, okay. Donc évidemment, c'est romancé, c'est ça que je cherchais, comment
oui,
c'est romancé. Ouais. Mais voilà, c'est une bonne série, c'est frais, c'est sympa. Voilà, je vous la recommande.
Ok, ok. Donc ouais, t'as bien aimé.
Ouais, j'ai bien aimé. Après, j'ai pas tout vu encore. Donc voilà, c'est sur 4-5 épisodes que je vous donne mon avis, mais
d'accord.
Je sais pas comment ça se termine et je sais. Ouais, vas-y, dis-moi.
Jusqu'à 70, enfin 80 jusqu'à 80.
C'est de 60 à 90, là, la saison 1.
D'accord.
C'est
cette période-là. Il est encore en politique à ce moment-là.
Non, je crois pas, non. Non, il est juste businessman, quoi.
Ok. Ah ouais, donc ils pourront peut-être faire une suite après et tout.
Ah bah, je pense que c'est ça le but, quoi. Et ouais, Laurent Lafitte me fait penser à Michel Leb un peu, tu sais, sur les sourires,
ah bah oui,
sur le look un peu.
J'allais dire.
Ouais.
Graphiquement.
C'est ça, ouais.
Non, donc, ouais. Ouais. Avec sa tête, ouais. Ouais, ouais.
Ouais, donc, c'est ça, il y croit à fond, il manque des business. Et quand tu dis que c'est des vrais trucs, et quand il se gaufre, il se viande, enfin, il fait vraiment de la merde, hein. Il en a rien à foutre un peu des détails, si tu veux. Son but, c'est de monter des boîtes et de faire de l'argent. Et le reste, ça l'intéresse pas. Et surtout, on le voit, hein, il manipule les autres, hein, clairement.
Ouais.
Donc, ça, c'est un peu. C'est un peu gênant, mais voilà, il manipule les autres pour arriver à ses fins. Et c'est un vrai nid à emmerde, en fait, le mec. Tu vois, par rapport aux autres, les autres s'associent avec lui, travaillent avec lui, ou même tombent amoureuses de lui quand c'est des femmes. Et tout le monde regrette après, tu vois. Ouais. Donc je sais pas s'il était planche pourrie comme ça, vraiment, dans la réalité. Mais en tout cas, voilà. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a pas donné envie de faire du business avec Bernard Tapie, en tout cas, de regarder cette série. Ce qui n'y arrivera pas, mais bon.
Après, faut voir, c'est la curiosité toujours, hein, de savoir ce qui est vrai ou pas, etc.
C'est ça, ouais, ouais, c'est ça. Mais ouais, il y a un petit côté mythomanie, leur robe, c'est un beau parleur, voilà. Donc après, je sais pas si ça retranscrit le vrai Bernard Tapie. D'après sa famille, non, mais en tout cas, bon, voilà. Ou peut-être que c'est une vraie image et ils ont pas envie qu'on le dépeigne comme ça, je sais pas.
Ouais.
On saura pas, on saura jamais.
On ne saura pas.
Mais la série est cool.
Ouais, ok, trop bien, trop bien. Bah, c'est noté aussi. Bah, je vais vous parler d'un jeu vidéo. J'ai testé quelques jeux vidéo là dont j'ai écrit un petit article sur le blog de Corben. Hein. N'hésitez pas à aller voir,
oui.
Corben.info.
Merveilleux.
Évidemment. Donc il y a eu quelques jeux récemment, et il y en a un dont je voulais parler qui sort un petit peu du lot, mais c'est pas le seul, hein, remarque. Mais bref, c'est un jeu, un FPS.
Ouais.
Qui s'appelle Trepang 2. Et bon, bah, Trepang 2, je sais pas d'où vient le nom, parce que bah, déjà, c'est pas le deuxième jeu. Il y en a que.
Ah bon?
Qui s'appelle Trepang 2. Ouais. Et parfois c'est écrit Trepang carré, tu vois. Donc voilà.
Ah
c'est...
oui, c'était plutôt ça, ouais, je vois que c'est Trepang carré.
Et sur la page Steam, etc. Enfin, il y a plein d'endroits c'est écrit Trepang 2. Donc je sais pas si c'est juste un effet de style le carré ou. Enfin bon, bref, c'est pas très important. Mais sachez que si vous pouvez tout à fait commencer par ce jeu numéro 2, puisque il y a pas de 1. Trepang 2, c'est quoi? C'est un FPS assez sanglant. Alors, ceux qui ont connu le jeu Fear, F-E-A-R.
Oui, avec les petits points entre les...
Et ouais, avec les points entre chaque lettre. C'était Ubisoft, je crois. Il y en a eu 3, et c'était au début des années 2000, il me semble. Ou 2010, je sais plus trop. C'est un peu ce genre d'ambiance. Donc, en gros, on est dans un truc assez sombre, assez réaliste, dans lequel on va combattre des gens armés, quoi. Et avec un gros fusil à pompe, des grosses mitraillettes et tout ça. Donc il y a du démembrement, il y a du sang et tout. Et il y a un petit côté paranormal avec parfois des ennemis ou des ambiances un petit peu cheloues, avec des lumières qui s'éteignent toutes seules, des effets que je vais pas dévoiler parce qu'en fait ça fait aussi partie du jeu, hein, de découvrir les différents mystères ou en tout cas de se laisser surprendre. Et aussi dans les pouvoirs dont on dispose, parce que bon bah on est un genre de soldat, mais surtout un super soldat. On a deux pouvoirs en particulier qui sont intéressants et notables et qu'on a dès le début. C'est en premier lieu de devenir invisible. Donc, ça dure que quelques secondes, mais on peut devenir invisible et comme ça on peut passer devant des gars et on se retrouve de l'autre côté pour les surprendre ou justement pour passer inaperçu et faire une autre action, etc., etc. Et l'autre pouvoir, c'est d'être ultra rapide. Et donc, de notre côté, ça s'est représenté en ralentissant le temps, bien évidemment. Donc, c'est comme si on passait en mode bullet time, comme dans Max Payne, dans Matrix, etc. Et donc, là, tout est ralenti. Nous, on peut très bien viser, faire toutes nos actions. Alors, si tu cours, tu vas pas courir aussi vite que d'habitude. T'es quand même dans une course un peu ralentie. Mais les autres personnages, eux, ils sont tellement ralentis qu'ils sont à l'arrêt, quoi.
D'accord,
ouais. Tu peux même te déplacer, etc. Tu peux très bien viser, tu peux balancer tes grenades, etc. Faire tomber les gars, les shooter alors qu'ils sont encore en l'air, et tout, et tout, et tout, et tout. Et donc, ça permet d'être super créatif. Et ce qui est sympa aussi dans le jeu, c'est que la construction des niveaux est bien pensée. Donc, genre, t'arrives dans une pièce avec une architecture où tu auras... de quoi te planquer, de quoi te mettre un petit peu en hauteur ou pas, etc. Donc t'as à prendre en compte la manière dont le jeu, dont le lieu est construit, et puis d'où arrivent les ennemis, avec quelles armes, etc. Donc c'est pas non plus un jeu de puzzle ou quoi, hein, mais tu vois, tu dois un tout petit peu réfléchir, regarder où t'es, hop, où est-ce que je peux un peu me planquer, où est-ce que je peux ressortir, parce que les ennemis, ils vont arriver par dizaines parfois. Donc vraiment, il faut bien maîtriser la situation, on va dire.
D'accord.
Et ce qui m'a impressionné déjà, c'est que le jeu, il a été fait par une équipe de 4 personnes seulement. Et graphiquement, techniquement, il tient super bien la route. Même les sons, etc. Tout est vraiment au top. Et ils ont utilisé le Unreal Engine, hein, je crois bien. Et ils l'ont très bien utilisé. Et même s'il est plutôt court, c'est un truc qui se fait en 4-5 heures, il me semble, hein, j'ai noté dans l'article. Tu pourras si t'as vraiment accroché et que t'en voulais plus, tu pourras revenir dessus facilement. Alors non seulement parce que tu peux rejouer l'émission avec une difficulté plus élevée, etc. Et je peux te dire qu'il y a vraiment du challenge si t'apprécies, parce que moi j'ai fait le jeu en normal qui est la deuxième difficulté seulement, et il y en a 6 des difficultés.
D'accord.
Et même en normal, il y a quelques passages, en particulier vers la fin, où j'ai recommencé plusieurs fois quand même, quoi, tu vois.
Ouais.
Donc, si tu veux te prendre la tête et essayer de faire des scores et tout ça, il y a ça. Et il y a aussi un mode un petit peu, comment on dit, survival, quoi.
Ouais,
en
gros,
t'as une pièce et les ennemis vont arriver de plus en plus, etc. Donc, il y a plusieurs niveaux comme ça et tout, donc c'est assez sympa. Tu peux aussi remplir des genres de missions, donc faire telle mission avec tel ou tel objectif. Et aussi, t'as des missions secondaires. Donc là, quand je te dis que moi, quand j'ai fini le premier tour, quoi, j'ai fait en 4-5 heures, mais en faisant que les missions principales. Et quand t'arrives sur la map au début et que tu choisis à chaque fois tes missions pour avancer, bah t'as plein de missions secondaires qui sont proposées. Donc il y a quand même de quoi faire, quoi. Mmh. Et voilà, c'est une bonne petite surprise. Ça paye pas de mine, parce que quand tu le vois, tu dis oui, bah un jeu un peu à la fière. Bon, c'est vrai que c'est quand même bien fait. Bon, ok, l'ambiance a l'air cool. Et vraiment, il est très très chouette, quoi. Je le conseille si vous aimez évidemment les FPS, hein, en premier lieu, et en particulier si vous aimez les trucs où faut bien shooter, se planquer, balancer la grenade au bon moment, utiliser ses pouvoirs, machin machin machin. Donc vraiment, c'est du gunfight, en fait, voilà. C'est
d'accord.
C'est un FPS à ambiance, mais aussi le côté gunfight est très important, et faut apprécier ça. Mais vraiment un très bon jeu dans le genre, quoi.
Alors, j'ai du coup, pendant que tu nous expliquais le jeu, moi j'ai regardé ce que ça voulait dire, Trepang.
Ouais.
Je me suis renseigné, ça m'intriguait. Alors, Trepang, c'est un synonyme, enfin c'est le mot pour désigner le concombre de mer, qui est un espèce d'animal marin, une espèce de grosse limace qui vit sous l'eau. Limace qui, si tu la touches, te provoque des irritations cutanées de fou, quoi. Surtout, c'est un animal qui visiblement, pour tuer ses proies, s'éviscère lui-même. Je sais pas comment on le dit, je sais pas pourquoi faire, mais voilà, c'est décrit comme ça dans la doc de ces animaux-là. Voilà. Et donc c'est un mot, en gros les devs, le dev qui est à l'origine du jeu, le jeu il est originaire d'une game jam, donc c'est un événement où ils ont dû faire des protos, des choses comme ça, et comme il a appelé ça Trepang, genre t'aurais pu appeler ça concombre de mer, quoi. Un mot random, et après comme c'est devenu un vrai jeu, bah il l'a passé au carré, je sais pas pourquoi, mais en tout cas voilà, ça vient de ça.
Merci pour les précisions.
Voilà, donc ça a l'air bien dégueu, hein, quand même, on n'a pas envie d'en manger, mais ça se mange dans le Pacifique, ils mangent ça apparemment.
Voilà. Ok, j'ai pas précisé, mais le jeu est dispo sur PC bien sûr, sur Steam, GOG et tout ça, mais aussi sur Xbox et PlayStation 5.
D'accord.
Voilà.
Bah merci beaucoup.
Eh bien non. T'avais encore des petits trucs à présenter ou pas?
Ouais, le dernier, allez, je vais parler de Equalizer 3.
Ah, ok.
Est-ce que tu l'as vu?
Ouais.
Avec le grand Denzel?
Eh oui.
Qui a certes bien vieilli, enfin qui a vieilli, mais qui a bien vieilli.
Oui.
Voilà, parce que c'est voilà, Denzel Washington, hein, pour ceux qui connaissent.
Ouais, je crois qu'il a facile 70 ans. Hein. Putain, je vais regarder.
Ouais, ça serait bien de regarder. Mais alors du coup, Equalizer, alors bon, moi j'ai vu le 1, le 2, voilà, c'est en gros le héros qui est incarné par Denzel Washington s'appelle Robert McCall, lui c'est un ancien tueur, en fait, voilà, c'est sa profession, et dans les épisodes précédents, il égalise, enfin en tout cas voilà, il égalise, c'est-à-dire qu'il rétablit la justice à sa façon, un peu.
Ouais.
Il prend la veuve et l'orphelin et il remet les compteurs à zéro quand les gens sont persécutés. Mmh. Et donc, il
fait justice lui-même, hein, tout simplement.
De quoi ?
Il fait justice lui-même.
C'est ça, il fait justice lui-même. Voilà. Donc en gros, il bute des méchants et voilà. Et donc du coup, il est parti. Alors c'est marrant parce que ça se passe en Italie, enfin dans le sud de l'Italie. Donc c'est très européen comme film finalement. Et il est en mission, etc. Et puis bon, il lui arrive une petite merdouille. Et en fait, il se confronte à la mafia locale, parce qu'il y a la mafia en Italie. Et voilà, je peux pas vous en dire plus, mais en gros, c'est un film d'action où ça canarde, où ça bombe. Enfin voilà, ça se bagarre, il y a plein de morts, etc. Et Denzel Washington, toujours égal à lui-même, hein, pas beaucoup d'expressions faciales quand même.
En tout cas, oui. Il en a eu plus, hein, mais dans ce rôle-là, il en a rarement. Hein.
Voilà, dans le film, il en a rarement. Très zen, très calme. Genre, il peut te tuer avec un coton-tige en 2 secondes 12 tout en buvant son café et sans se lever de sa chaise, quoi. Donc, c'est un peu ça. Mais bon, voilà, c'est très. Je vais pas dire c'est drôle, mais bon, c'est un film sympa. Et il récupère rapidement, nous dit Laurent dans le chat, effectivement. C'est vrai qu'il s'en prend un petit peu dans la tronche, mais il est assez résistant.
Tu dis drôle, mais si, je trouve qu'il y a un côté quand même bah ouais, c'est un petit peu n'importe quoi et tout, et c'est un peu rigolo quand justement il tue quelqu'un avec un coton-tige. Bon, c'est pas pour du vrai, hein, je vous rassure. Mais ouais, il y a des trucs un peu du genre et ça fait sourire. On
oui,
sait
c'est ça.
Ils se prennent pas au sérieux non plus, quoi, parce que c'est.
Ouais, c'est très cliché, quoi. C'est très cliché.
C'est cliché, parfois un peu ridicule dans le truc, mais ça fait partie du genre, c'est plaisant, quoi.
C'est ça, ouais. Et du coup, ouais, c'est vrai que moi, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu dans un film, donc quand je l'ai vu, j'ai dit, mais ils vont faire quoi? Il a l'air tout vieux, tout mou. Mais en fait, non, ça va, il se débrouille bien quand même.
Mais il a 69 ans.
Eh ouais.
Et je pense que pour ce rôle, il a joué. Enfin, c'est vrai qu'il joue le mec vieux un peu plus qu'il doit l'être, en fait, non?
Le mec fatigué, quoi.
Ouais, voilà. Il y a ce sentiment-là dans ce film qu'il n'y avait pas dans les autres.
C'est vrai, ouais, c'est ça, ouais.
Froid, très calme, etc. Mais là, ils l'ont fait un peu vieux, ouais. Et après, c'est vrai qu'il est en rétablissement aussi.
Oui, c'est ça, ouais. Ouais.
Du film. Mais ouais. Alors moi, j'étais un peu déçu parce que bah, le 1 et 2, j'avais bien aimé, même si bah, c'est des films un peu basiques et
oui,
tout
voilà.
Ça, quoi. Mais j'avais bien aimé parce que bah, film de revanche, on va dire, hein, mais efficace et tout. Et le personnage est intéressant, quoi. Le fait de. Bah, c'est un ancien tueur en série. Enfin, pas en série, pardon, mais un ancien tueur à gages qui a bossé, je sais pas, pour la CIA ou je sais pas quoi, mais bref. Hein,
ouais.
Avec ultra haut classe, ultra secret et tout.
Ouais.
Qui avait aussi qui a d'ailleurs des tics et des tocs.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Etc. Et ben dans ce film-là, ils ont rappelé un peu qu'il avait des tics et des tocs, mais ça changeait rien au film, quoi. C'est vraiment pour dire, ah oui, au fait.
Ouais.
Il a ça. Moi, ce qui m'a un peu surpris dans ce film-là, c'est que. Ben, j'ai pas trop envie de spoiler non plus, mais disons qu'il est accueilli par des gens. Globalement par plein de gens, mais qui l'accueille mais les bras ouverts et avec une gentillesse incroyable, à tel point que au début je pensais que c'était un piège ou quelque chose, tellement les gens l'accueillent, sont ultra gentils, souriants. J'ai trouvé ça trop bizarre et très décalé par rapport à une réalité, quoi.
Ouais, il a, en fait c'est un peu The Equalizer mais en vacances, quoi.
Ouais, c'est ça. Et tout le monde est aux petits soins avec lui, alors qu'on sait, bah, y a pas vraiment de raison. Donc vraiment, je pensais qu'il y avait un piège ou quelque chose, quoi. Et que tu vois, c'est un peu Truman Show où tout le monde autour de quelqu'un sait.
Il y a, ouais, parce que en vrai, enfin, le film il est très huis clos, quoi. Ça se passe quasiment tout sur la même petite place du village, quoi, en gros. Oui. Enfin, c'est.
Oui, oui.
C'est ça. Il y a, enfin, pas que ça, mais. C'est pas un film où ça voyage comme dans Mission Impossible où tu parcours l'Europe, quoi, tu vois, c'est.
Non, là, ça voyage, mais un seul endroit.
Ouais, c'est ça. Le mec, il va de sa chambre au bistrot et du bistrot à sa chambre. Voilà. Mais, bon, voilà, c'est marrant, c'est marrant. Bon, après, c'est vrai que c'est assez, enfin, le village italien tel qu'il est décrit, il est un peu cliché aussi, tu vois. Tu sens que c'est en studio, c'est à l'américaine, quoi. C'est du village Disney un peu où tout est parfait.
Ouais, c'est, Disney, ouais, c'est ça
où effectivement chaque personnage a sa place. T'as la fille du troquet, il y a le mec qui vend son poisson, enfin voilà.
Oui,
et puis
oui.
Tout le monde est joyeux et puis il y a la messe et tout ce petit village est très heureux jusqu'au moment où arrive la mafia, quoi.
Ouais.
Et là, ils font moins les malins.
Ouais, moi j'ai un peu. Bah, j'ai pas trop aimé celui-là au final parce que il y avait ce côté vraiment un peu trop surréaliste et il y a même des trucs un peu bizarres. À un moment il y a quelqu'un qui lui propose d'aller découvrir les spécialités locales, d'aller manger,
oui,
truc italien, sicilien même d'ailleurs, c'est en Sicile je crois,
ouais,
et ils vont en machin et qu'est-ce qu'ils mangent? Un kebab.
Oui, j'ai vu ça aussi.
Donc j'ai pas compris. Donc voilà, il y a des trucs un peu comme ça qui, en fait, régulièrement, je sortais un peu du film en me disant, bah, c'est bizarre quand même.
C'est bizarre. Spécialité italienne, le kebab, bah peut-être, hein, pourquoi
bah ouais,
pas. Hein.
Quand même. Et puis, un petit peu déçu sur les scènes d'action, qui sont cool, mais trop peu nombreuses. Hein. En vrai, en y réfléchissant là comme ça de tête, je crois qu'il y a eu quelques trois bastons, non? Une au début, une à
peut-être,
la fin,
ouais.
Et une par le milieu, non?
Ouais. Bon après voilà, c'est pas un gros film.
Pas grand film.
Mais
moins
c'est
bien
sympa
que les
quand
deux
même.
Autres.
Ouais, c'est voilà. Ça, moins bien que les deux autres. Ouais.
Qui étaient des petits plaisirs coupables.
Ouais, c'est ça.
Par contre, les bastons, il y a des trucs un peu sanglants, c'est assez cool quand même dans le sens. Il faut pas l'embêter quand même le gars.
Mais bon, en tout cas, toute la première partie du film est assez longue, hein, quand même. C'est un petit peu longué, quoi.
Ouais.
Voilà. Mais bon.
Donc en demi-teinte.
C'est ça, bah disons que c'est bien, ça passe le temps. Non, c'est sympa, franchement, je l'ai regardé d'une traite, c'était sympa. Okay. Je l'ai pas arrêté en cours de route et tout, voilà, mais c'est pas non plus le film qui te captive du début à la fin, quoi.
Mmh. Ouais, bon, bah moi je. Ouais, ouais. Moyen pour moi. Moyen. Non, mais ouais, hein.
Voilà, et ça sera donc ma dernière recommandation.
Ok, pour alors attends, faut que je choisisse bien la mienne.
Vas-y, choisis bien.
Ah, si, j'avais un film dont je voulais vous parler. Alors pareil, on reste un petit peu dans le sanglant, etc.
Ouais.
Et on retourne chez Amazon, si j'ai pas de bêtises, laisse-moi juste vérifier. Ouais, sur Amazon Prime. Ce film s'appelle Totally Killer. Et évidemment, killer comme dans un tueur en série, quoi. L'originalité de ce film et quel est le pitch? En gros, c'est un retour vers le futur mélangé à un slasher un peu comme Scream, tu vois.
Ah ouais?
Donc du slasher, pas le truc le plus sanglant, mais tu sais, le genre où tu essayes de savoir qui est le tueur, etc.
Oui.
Avec des trucs rigolos et un petit peu satiriques.
D'accord.
Et qui se moque un petit peu du genre. Et mélangé avec Retour vers le futur parce que bah, il va y avoir du voyage dans le temps.
Ah, trop cool.
Et j'ai trouvé que ça marchait vraiment bien. J'ai vraiment bien aimé. Je trouve que c'est un bon film. L'actrice principale, c'est celle qui jouait la fille de Don Draper dans Mad Men. Donc je sais pas si tu te souviens trop.
Non.
Mais ça faisait plaisir de la revoir. Elle a grandi et tout. Et puis elle a son propre film et tout. Bah, c'est rigolo, quoi. C'est cool. C'est vraiment un peu comme dans les Scream et tout ça, où t'as un tueur en série et il va se passer quelque chose qui fait qu'ils vont revenir à un moment dans le passé et essayer de trouver qui est le tueur en série finalement.
Ouais.
Il se retrouve donc dans les années 80. Et donc, tu parlais tout à l'heure de Stranger Things, de retrouver le côté, comment c'était à l'époque, le côté reconstitution. Il est plutôt réussi. Et puis, ce qui est sympa, c'est que cette fois-ci, ils mettent bien en parallèle, comment dire, le comportement d'avant par rapport au comportement d'aujourd'hui. Le côté un petit peu rigolo de certaines situations de l'époque par rapport à aujourd'hui. Donc, je donne un exemple au pif, mais à un moment, elle arrive au lycée et donc elle cherche sa classe et tout ça. Elle va à l'intendance, à l'accueil, quoi. Et elle s'attend à ce qu'on lui demande sa carte d'identité, qu'on lui demande des trucs et des machins pour voir qui c'est qui, puis où elle est, puis si elle a bien le droit de ça. Et en fait, non, on lui donne le truc et puis on lui dit d'y aller tranquille. Enfin, c'est que ce soit les normes de sécurité ou les trucs comme
ouais,
ça.
Ouais, d'accord.
À l'époque, c'était moins vérifié, quoi, tout simplement.
Ouais, ouais.
et voilà, donc j'ai trouvé vraiment sympa. Et je sais pas si j'avais déjà parlé de Freaky ou de Happy Death Day ou ce genre de film,
mm-hmm.
qui étaient des films qui mélangeaient un petit peu, bah, pareil, slasher, horreur, mais gentil, quoi. Avec donc il y en a où c'était un peu Un jour sans fin,
oui,
donc ça c'est Happy Death Day. Donc t'as le même jour qui se retourne en boucle, sauf que à chaque fois elle se fait buter, donc il faut qu'elle trouve qui, etc.
Ouais, je crois que j'avais vu celui-là.
Il y avait Freaky où c'était. Repris sur le concept de Freaky Friday, où tu sais, t'as une mère.
Oui, ils inversent leur corps et tout.
Là, c'est le tueur en série qui inverse son corps avec la victime. Et ouais. Du coup, le film était vachement cool aussi.
Mais j'avais vu aussi celui-là, tu nous en avais parlé et j'avais bien aimé, ouais.
Ah, il était bien, hein, ouais. Donc voilà, Totally Killer sur Amazon. Bonne petite surprise. Bien fait, sympa, pas trop long ni rien. Vraiment, le film, il sait déjà ce que c'est, quoi. Tu vois, ils essayent pas de faire un grand film, je sais pas quoi. Non, c'est un
film
un peu débile. Ouais, voilà. C'est du Scream avec du retour dans le passé, quoi.
Ok.
Et c'est cool.
Bah, nickel.
Donc voilà, je vous recommande Totally Killer sur Amazon Prime. Bien évidemment, il vous faut l'abonnement et avec le code... on n'a pas de code. Dommage.
On pourrait.
On pourrait, après.
Il faut que j'appelle Jeff Bezos. Pour lui demander un code.
Bon, voilà pour ce mois-ci.
Yes.
On a fait le tour de nos petites recommandations et découvertes culturelles. La semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, pareil, on fera une émission peut-être un petit peu plus courte.
Actu,
on part sur les news.
Ouais, les news, actu.
Ouais, l'actu, les news, on va vous faire ça la semaine prochaine.
Yes.
Qu'est-ce qu'il y a à dire? Entre temps, ce que vous pouvez faire, c'est rejoindre Corben sur sa chaîne Twitch à lui, CorbenFR. Donc là, à 14h, tu y es. Hein,
c'est ça, à 14h, j'enquille.
Voilà, tous les lundis, mardis, mercredis.
Exactement.
Et puis, si vous n'en avez pas assez, vous avez aussi son blog, corben.info, avec tous les articles, etc. etc. Au moins un article par jour, hein, si je dis pas de bêtises.
C'est ça. Merci Rémi pour la pub, c'est parfait.
Ah bah attends, et parfois plus.
C'est carré.
Et puis, il y a aussi les liens pour te retrouver sur les réseaux sociaux, si on veut te suivre sur TikTok, sur Insta, sur...
Tout dans ça, tout rue. Ça, ouais. Ouais, Corben, voilà. Non, pas dans la rue, évitez, parce que je fais du kung-fu. Mais personne n'y croit, tu sais. Je fais du kung-mu. C'est comme du kung-fu, mais en version mou, quoi. Non, voilà, si vous tapez Corben dans votre moteur de recherche, et vous allez tomber forcément sur moi ou sur un ancien acteur porno qui est malheureusement décédé il y a quelques années. Mais voilà, si vous avez le filtre parental, normalement, c'est que sur moi.
Ok. Et moi, mes actus, on me demande dans le chat, ça bosse pas mal sur la musique, prochain des clips pour Kickband, des nouvel albums, d'autres groupes, etc., dont je vous parlerai quand ce sera prêt. Et puis, vous pouvez me suivre sur remouk.fr, là, c'est là où je mets mes petites news sur le blog, même si c'est pas très à jour, si j'oublie souvent de parler de toutes mes activités. Et vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, hein. Il y a les liens sur mon blog ou Rémi Remouk sur Insta, etc., etc. Album, ouais, album pour Kickband, un album solo aussi, je fais des petites chansons en acoustique.
Et alors quand il y a des dates, tu peux nous teaser des trucs.
Et là, qu'est-ce qu'on a comme date? Si vous êtes sur Nantes ou pas loin de Nantes, on va jouer demain. Demain on joue. Demain, je fais un concert où je joue en acoustique des chansons à moi. Et je joue aussi avec des copains. Et puis en novembre, le mois prochain, il y a le Festival Barbare à Nantes. Donc c'est en gros, c'est les bars qui font plein de concerts, etc. Donc un festival, mais dans les différents bars de Nantes. Et nous, le jeudi 16, si je dis pas de bêtises, on va jouer avec Kickband à la Drôle de Barge. Donc il y a une péniche super cool à Nantes. Et voilà pour l'instant ce que je peux vous annoncer qui est sûr.
Bon, c'est bien.
Et puis on prépare 2024 surtout en fait. Hein.
Ouais.
C'est ça qui se passe, hein. C'est préparer 2024, avec comme je vous dis des enregistrements, des vidéos.
T'as, je sais déjà pas ce que je fais demain, toi tu prépares 2024.
Bah ouais.
Vous êtes trop forts les mecs.
Ouais. Alors, bon bah et puis si jamais hein, vous comptez vous marier ou alors vous avez une fête dans votre entreprise ou je sais pas quoi et que vous cherchez un groupe de musique ou un musicien, pour faire la fête, n'hésitez pas à me contacter en vrai parce que je suis en train, on monte un truc de la musique pour faire ce genre de concert. Donc,
musique voilà. Diverse et variée.
Exactement, des reprises.
C'est-à-dire qu'en fait, je peux t'appeler et te faire jouer la Ziza de Daniel Balavoine pour mon mariage et mettre le clip après sur YouTube.
Par exemple, après il y a des on a une setlist qui existe déjà. On est
d'accord, ok.
On n'est pas obligé, quoi.
On n'est pas obligé.
C'est peut-être pas forcément conseillé d'ailleurs, mais bon.
Du Johnny Hallyday, tu peux reprendre ça j'espère.
Ouais. Bon, disons que tout se discute.
Tout se discute. Ça dépend. Si vous êtes de la thune, il vous fait tout. Il vous fait tout.
Ouais, Kickband. Ah oui, aucun concert n'est prévu pour le moment. J'ai pas mis à jour pour le truc. Pour novembre, ok, je vais ajouter ça. Mais ouais, en ce moment, les concerts, il y en a un peu. Ah oui, par contre, il y a une bonne série de concerts, mais bon, vous n'allez pas pouvoir venir, j'imagine. C'est en janvier, on va partir jouer en Thaïlande, on va faire une série de concerts.
Il y a sûrement des fous qui seraient capables de vous suivre.
Ah bah voilà, donc je préviens. Mario en test bientôt. Ah bah ouais, j'espère, ouais. J'attends, là, il va sortir en 4 jours, le nouveau Mario.
C'est ça.
Ça risque d'être pas mal.
Alors j'ai vu la bande-annonce, juste une petite parenthèse. J'ai vu la bande-annonce. Je sais pas si les graphismes de la bande-annonce vont être pareils que dans le jeu. Parce que j'ai trouvé que c'était vachement détaillé, vachement fin, bien animé. Et je sais pas si c'est juste l'effet pour la bande-annonce qu'ils ont fait une bande-annonce, enfin une pub quoi, ou si c'est vraiment le jeu qui va être comme ça.
Ça dépend ce que t'as vu. Ils ont fait des petites bandes-annonces où c'est sur fond blanc et tu vois les personnages qui interagissent.
Moi je parlais d'un jeu, enfin on voit vraiment les niveaux quoi. Et avec des zooms sur les personnages.
Oui.
Où tu
Oui, c'est le nouveau style graphique. Donc
putain,
en gros, ils ont pris un peu le style d'avant, mais ils l'ont très affiné. Et surtout, les animations sont beaucoup plus rigolotes et détaillées. Il y a plein de petits détails en plus. Et c'est vrai que ce qu'on pouvait reprocher au New Super Mario Bros, donc les versions récentes de Mario en 2D, c'était que c'était un petit peu rigide les animations. Elles étaient très belles et très propres, mais un peu rigides, quoi. Mm-hmm. Et là, on voit les personnages qui rebondissent un peu plus, qui ont des des petites têtes, des petites, je sais pas, c'est vrai que c'est très bien animé et ça donne très envie. Et d'ailleurs, c'est un Mario qui se jouera à plusieurs sur le même écran. Donc pareil, en famille, pour s'engueuler, c'est parfait, quoi.
Parfait, parfait, parfait.
La Thaïlande, bah, je vous raconterai ça la prochaine fois pour pourquoi on va en Thaïlande. Tiens,
voilà. Tu me ramèneras un éléphant?
Oui, s'il te plaît. Bah, c'est le thème, hein, parce qu'avec Mario Wonder, c'est la transformation.
Oui, c'est vrai.
J'habite à Nantes, c'est l'éléphant.
Ouais.
Tout est lié. Voilà, ben merci beaucoup tout le monde d'avoir participé dans le chat.
Merci à tous.
Merci Corben, c'était chouette. On se retrouve donc semaine prochaine pour les news. Et comme on disait, n'hésitez pas à nous faire un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de l'émission précédente, surtout pour les gens qui n'avaient que le son.
Et oui.
Et puis ben moi je vous dis à bientôt. Je te laisse conclure et fermer le live. Bisous.
Merci à tous. Bisous, bisous. Ciao, ciao.